This episode of Viewpoints is a rerun. Hello and welcome to Viewpoints. Boris Chassaigne here with you for the next half hour. On today's show, nature and literature will be our beat. We'll first take a long walk through the Pickard Quarry, a little pocket of wilderness in the middle of residential Sackville.
I found people in here doing all sorts of different things. Walking through and just having a nice look is one thing. It's traditionally been a hangout for students from the high school and from Mount Allison. I found a woman who lives on the south side in one of the retirement homes who would pick up her mail and come in here and sit beside the quarry and read her mail and then go back. I found another woman who came in here to paint. She would just like the scenery and she would paint. All sorts of things go on here, most of them taking advantage of the things that this place offers.
And we'll have a chat with environmental writer Catherine Fletcher of De Pontiac in Quebec, who has decided to retire from writing her column after 34 years.
By asking questions and being vigilant, I think that it's our human spirit and our ability to make something happen in a better way.
And we'll get to learn more about author Ian Reid, who has made the Governor General Literary Awards shortlist.
I'm really grateful that it was recognized in this way to be included with some other great novels that I, writers that I admire. And if it brings more people to all of these novels, then I think that's a good thing. It's hard to sometimes get people to see the work, so it's another opportunity for that.
Welcome to Viewpoints.
Follow us on Twitter at CanadaLJI. Listen to all our news online at canada-info.ca.
Welcome to the show. Nice to have you with us. Living beside a rock quarry is not typically considered desirable. And for the 20 or so years of its heaviest operations, the Pickard Quarry, as it's now known, was probably not the best of neighbors. But these days, after many decades of being left alone, the old stone quarry is a renaturalized gem located at the end of the quarry lane between York and Charlotte Streets in Sackville. So, imagine it's a school and work day, and you're taking the day off. Leaves are turning, the sun is warm, sound is quiet, and there you are with Erica Butler, enjoying your stroll through the quarry in the company of Richard Elliott, a neighbor of the Pickard Quarry since the 1990s. We'll wait for you on the other side.
We've always considered it part of our backyard because we live on Sodden Street, just on the other side. Our son walked to Salem School through the quarry every day and back, and learned to like wildlife. He saw an otter in here one time, though that was pretty cool. So I've been here that long with Kate, my wife, and we've also had lots of interaction with other people who use it. So it's not just us. Lots of people think of it as their private backyard.
Elliot has spent days working on cutting and pruning the trails in and around the quarry to keep them accessible for hikers. And now he is heading up an effort to make some slightly more impactful trail improvements with backing from the Tantramar Outdoor Club, Southeast Regional Service Commission, and hopefully Tantramar Council. Elliot is hoping that Council will choose to fund some improvements to make the quarry trail safer and a bit more accessible. He's working with Regional Trails Coordinator for Plan 360, Mark Legere, on how to best do that.
Well, he and I are developing a conceptual plan right now, and we're going to implement that with the town, who's going to fund the work. Mark's going to provide a lot of the expertise, and the manpower will come from Tantramar Outdoor Club, and the expertise also from Chignecto Naturalists, who are our local naturalist club, and they're very interested, and they're going to provide manpower and expertise about how to interpret the wildlife and natural history here. And the Tantramar Heritage Trust, which is our local historical society, is very interested in the idea of interpreting what happened here from a cultural and industrial history point of view. So we'll be putting in explanatory interpretive signs, just a few of them around showing where the rock was taken out. There are some big blocks of sandstone in there that they'll talk about how they were quarried and how they're taken out. And so it'll be easy enough for someone to just come in here on their own and have a quiet day relaxing, or to learn something about wildlife or cultural history. And so the partnership of those three NGOs and the town and the local commission, I think, is making it all come together to something that really should work and should be really a good asset for the town.
The idea to formalize the quarry land and trails into a park has been floated for decades, but the possibility became more realistic last year when the town of Sackville formally acquired the land from its previous owner, Mount Allison University. Manet purchased the quarry from the Sackville Freestone Company in the 1930s, when the operation had pretty much petered out. Sackville's purchase was strategic. After a water control structure was installed at the outlet of the ponds this summer, they will now serve to store water during heavy rain events when tides won't allow quick drainage of the town's fresh water supply. In the decades that Mount Allison owned it, people in Sackville had explored the quarry, and it was known as a meeting spot for young people. These days, it's not necessarily a romantic hotspot, but there's still plenty of evidence of life.
It looks kind of quiet today. There's not much here in the way of wildlife right now. I saw three mallard ducks on the way over. But I've seen, Kate, my wife, and I and others have been making lists of the birds and mammals we've seen in here. I think we're up to 17 species of mammals we've either seen or seen tracks of. I saw a beaver here once. We see otter sign almost every time we're in here, all through the winter. Muskrats, rabbits, deer. Peter Manchester once saw a moose coming out of this area, crossing over towards the graveyard. So there's a lot going on in this little pocket, which is actually right in the middle of a residential area in Sackville.
So do you think people will use it as a transportation corridor as well as just going for a nice hike?
I think so. But, I mean, if you've got to walk downtown from here, from my end of town, it's much nicer to go through the quarry than it is to walk down one of the roads. And so we're hoping that that is what happens. So we're hoping that it's used for a whole bunch of things. Like right now, I found people in here doing all sorts of different things. Walking through and just having a nice look is one thing. Coming in and sitting down, having a beer or a smoke is another thing. It's traditionally been a hangout for students from the high school and from Mount Allison. So a lot of things have happened here because it's so close to both of those things and isolated. So it's known as a hangout. But I found a woman who lives on the south side in one of the retirement homes who would pick up her mail and come in here and sit beside the quarry and read her mail and then go back. I found another woman who came in here to paint. She would just like the scenery and she would paint. And there have been students from Mount A coming in, poking around in the water looking for pond life. So all sorts of things go on here, most of them really taking advantage of the things that this place offers. So, yeah, it's already used quite a bit, and I think it'll be used a lot more. And, you know, I've encouraged people who live on that side to go to university through the trails.
Did you say you skate on this pond?
Yeah.
And you still do that?
Still do.
Yeah? Yeah. Swimming?
We've swum, but it's not great for swimming, so people don't do a lot of swimming here. But, yeah, quite a few of the local families come down here to skate. When our kids were young, we left hockey nets and plows down here and just came down and opened it up every winter. And we still do that. We bring our shovels down. And there are times when it's nice to skate on Silver Lake or the Waterfowl Park, but this, because it's sheltered from the winds, see, you can hear the wind in the trees right now, but there's no wind down here. It's like, it's just amazing that it just goes across the top. So on a sunny afternoon like this, on a cold day with wind somewhere else but not here, it's a fantastic place to skate. So we clear rinks and we clear trails, and sometimes you don't have to clear anything. If the ice is good, you can just skate everywhere.
That's Richard Elliott walking through and talking about the Pickard Quarry lands, now owned by the town of Tanchamar, accessible from the end of Quarry Lane off Salem Street. At the height of its success in the first decade of the 20th century, the Sackville Freestone Company hauled out 800 tons of stone per day from the quarry. It's easy to forget, as you walk down to the quarry ponds, that the whole area was once filled with earth and red sandstone that was blasted out and hauled away. The area was a farm field when Charles Pickard first noticed outcroppings of valuable sandstone.
The land would have been probably about 20 feet above us now. It would have been at the top up there. You can see the rise. It's not actually a rise. We're just down below that. So that would have been where the top of the land would have come up. It's hard to imagine, but it would have been.
All this was dug out
and
since the 1880s
and exploded.
80s,
yeah.
Or 90s.
Yeah.
Wow.
So at least 60 feet, which is, what's that, two or three houses in height. Two houses, probably. And yet now it looks natural. Ducks use it. Otters use it. Raccoons use it. all sorts of, this area here is used by raccoons and skunks for denning in the winter. Whenever you come by here in the winter, you get a little poof of skunk. And birds are here all the time. The turkey vultures have started roosting in here in the evening. Great blue herons, Canada geese tried to nest here 1 year, pintail ducks. I've got a long, long list of birds that I've seen in here. And a lot of our winter birds come in here for the same reasons that we do, because it's sheltered in the winter, and so things like crossbills and Bohemian waxwings and chickadees and cardinals and things are here as well.
It's easy to think while walking the quarry trails that you've discovered something secret or unknown.
That's the interesting thing I find, that a lot of people think this is theirs.
Yeah.
I think it's mine, but a lot of people have the same idea.
As if on cue, while Elliot energetically clips back the invasive multiflora rose that plagues the trails, another voice calls out.
I'm for work here, taking a break from work, and just, I'd like to come here.
Yeah.
See, there's another example. I've just been telling you that people do that here.
It's a Mount Allison physics professor taking a midday break.
Ralph Bruning. I'm a professor in physics. And once in a while, when work gets a little bit too much or I need a little break, I love to come here and walk around. My office is in the Dunn building, so it's quite close, actually. I'm here probably literally 300 meters from my desk. So I really like this place, and it's, I guess, there's probably some interesting wildlife and biology going on here. I guess old quarries are known for that.
So, I mean, I guess it's fair to say this contributes to your quality of life?
Yep, it's a great break close by and a little bit wild, which is nice.
Elliot is hoping that the trails will stay as wild as possible. He's not planning for major interventions, but rather strategically placed benches, rails, and hopefully a bridge overlooking Bulmer Creek as it spills into the quarry ponds.
My job is going to be to control people from trying to do too much. But everybody I've talked to who lives here really wants to have it very low impact. And sort of trails, like what we're walking along here, it doesn't have to be changed at all. It's safe to walk on, it's comfortable, it's wide enough. But there are some people in the outdoor club who like to put gravel everywhere and widen things, and so because this is really low impact, natural. Mm-hmm. And that's the consensus of everybody who I've spoken to so far.
I guess the trade-off is there's, you know, a limit of accessibility, but on the other hand, I guess there's what the time investment of maintaining it, and also the impact on the natural area.
And part of the problem is that accessibility is challenging anyway, just because of the ups and downs and the rugged terrain. So that road we just walked on, I mean, people could probably walk out and get to the bridge quite easily without any difficulty. So that's a sort of a medium access kind of place for most people. We're hoping for on the other side there's a place where we might put in a boardwalk of some kind and a look-off platform off Pickard Place where people who are really limited in their access could still get to it. So we're trying to make sure that everybody can get into at least a portion of this. But we're not going to try to make all these kinds of trails multi-use or multi-access because it would be a huge task and would sort of work against the idea of having it maintained as a natural place. And a lot of the people who use it now really relish in the thought that it's a quiet, comfortable, wild kind of place that they can get to. And if we can do that safely for everybody, as well as having places that everybody can get to, not just people who are completely fit, then that would be good too.
And good news, Richard Elliott's proposal was accepted by the Sackville Council. His project will get $40,000 in 2024.
Hi, I'm Pamela Hassan in Smithers, BC, and you are listening to Viewpoints.
Pontiac environmentalist and writer Catherine Fletcher recently announced that she will be stepping back from writing columns for several local publications after 34 years in the business. Most recently, her column, Our Environment, was published in the Pontiac Journal, Aylmer Bulletin, and West Quebec Post, covering environmental issues both local and international. She explains that her decision to step away coincided with some other changes in her personal life and that of her husband, Eric. In Pontiac, Quebec, Caleb Nickerson caught up with Fletcher to talk about her career and projects.
Catherine, how's it going?
Really well, thank you.
Awesome. For those that aren't familiar, could you describe a little bit about what your column is and how it's evolved over the years, I guess you could say?
Sure. Well, the column that I've been writing for the West Quebec Post, Pontiac Journal, and the Elmer Bulletin is called Our Environment. And it really, because to me, the environment pretty well covers absolutely every aspect of our lives, it's a really involving commentary. It's a way of speaking to readers, to people who are living here, about everything from their writing a will and the importance of it and the possible benefit of, donating to an environmental cause, through to what we're going to be doing about voting for an incinerator or the Chalk River near surface disposal facility, through to bird migration. I mean, everything and anything really is the environment.
For sure. As far as like subject specific columns, it's a pretty broad subject for sure.
Yeah. It's been fun to write, too, because, you know, I think that people can often think, oh, what a dreary, depressing topic. And people have said to me, have walked up and said, oh, well, we're so sorry to hear that you're retiring from it, but I guess it's pretty depressing. And I said, well, you know, it's the way of how you turn that crystal. You know, a crystal is my metaphor for life. If you keep on bashing against the brick wall, then just turn the crystal and find a new facet. And I think that that's what we've got to do with the environment, you know, from loving the Blanding's turtle and caring about species at risk, through to embracing new mills and clear-cut forestry. I mean, you know, how do we balance? But the important thing too, Caleb, is always to remember the joy in nature, the restorative powers of nature, and you know how we can enjoy ourselves too. So, I just love the topic.
And can you talk a little bit about how you got started there?
Well, really, it's all about writing, isn't it? You would know that as a journalist, and I think journalism is so important, isn't it? It's really about putting your thoughts down and provoking interest. And I did that as a little girl. I always wanted to be a writer. I also wanted to be a nun and a jockey. So
that's a pretty diverse
reason. I know the nun didn't work out at all. I don't know where that came from. Horses, of course, I have horses still. So, but no, the writing, I wrote stories and little tales and was so inspired by my mom, who loved nature and who read me Beatrix Potter's Tale of Peter Rabbit and stuff. And Beatrix Potter, of course, was one of England's first environmentalists. She donated a lot of land to what's known now as British National Trust. So, you know, from a tiny little girl sitting at my mother's knee listening to these rabbit stories, Tale of Benjamin Bunny, and all of these things, you know, it's grown into a lifelong passion, and I still will write. I'm a visual artist as well, and I really, writing is part of my life. In 1985, I thought that, well, there isn't a book on Gatineau Park, so I wrote one, and of course couldn't find a publisher. I got 30 rejections. So I wrote one and self-published it, and it sold out in 6 weeks. So that really, that book launched my career as a author, but also credibility as a freelance writer.
Jeez, and what was that process like getting into column writing for a newspaper? Just walk in the door and say, here I am, or did they approach you? How did that work?
I walked in the door and said, I think you need a column on the environment. And they, first of all, said, go away. But as some people know about me, I'm rather persistent. So then I was told, well, do you know anything about the Pontiac? You just arrived here. And I sort of explained about Eric and, my husband, Eric Fletcher, and the cabin up the Black River. And anyway, I got the job, and I've kind of been doing it ever since, haven't I? And I think we just have to ask questions. You know, when I was growing up in the 60s and 70s, we had this MANCHA, question authority. And a whole bunch of people have forgotten about that, and a whole bunch of us haven't forgotten about it. And I think we always need to, because by asking questions of the people who are wanting to impose these things or suggest these things, whatever you want to say, by asking questions and being vigilant, we just, I think that it's our human spirit and our ability to make something happen in a better way.
Well, it really broke my heart. We're sorry, Catherine, Caleb, that we had to chop off two-thirds of this fascinating conversation. But you listeners out there can dive into the rest by tuning in to canada-info.ca and listen to Catherine Fletcher talk about her writing, career, and future projects, one of those being with the Canadian Parks and Wilderness Ottawa-Dumois River Artist for Wilderness Association.
You're listening to Viewpoints with Boris Tsang.
Next, we'll stay close to the Pontiac and go down to Kingston, where local author Ian Reid has made the cut as finalist in the prestigious Governor General Literary Awards. The GG Books Literature Awards recognize the best English and French books in various categories. 70 books across 14 categories made the shortlist this year. Reid's third novel, We Spread, was included in the fiction category for this year's contenders. The story is essentially about the aging process, as the author follows Penny, an artist living on her own in the same apartment she has for decades. But after a fall, Penny finds herself placed in a long-term care facility. Christina Laurie sat down with writer Ian Reid to talk about his book and motivations.
I want to get right into We Spread. We'll get a bit more into the meat of the topic. But for our listeners who haven't had the chance to enjoy it, I was wondering if you would be able to give a brief teaser of how you would describe the novel.
Sure. Yeah. I mean, the novel, sort of an unusual novel, and it's about an elderly artist named Penny, who's been living in the same apartment for her entire adult life. And she's at the stage in life where she's kind of looking back, reflecting on what she's done with her life, her art. She has a fall early on in the story. And after the fall, it's sort of decided that it's best for her to move into a long-term care facility. And she does that. And then I would say the story either evolves or devolves, depending on how you look at it, into more of a surreal territory, and is sort of about her experiences at this facility called Six Cedars.
It's interesting you describe it as unusual. I know it's difficult to put into a box. What kind of genres would you say this book fits into?
Yeah, that's a good question. It's a question that a lot of people have asked since it has been published, including the publisher, when it was getting ready to be released. And I think this has happened with all of my novels. They don't really fit into any particular genre. I think there are probably some elements of, horror literature. There's probably a little bit of science fiction maybe, but it's probably at the end of the day, just a literary novel, a story. Mm-hmm. I like the idea of people being able to interpret it however they want. So some people read it and see a certain genre. I think that's cool, but it's sort of up to them, as opposed to me wanting to put it into a particular place. As a reader, I love going to books and not really going with any expectation. And I kind of like, if people want to come to something like We Spread and not really expect something specific, I think that's probably the best.
Absolutely. I suppose our real lives and stories don't neatly fit into categories either. So I think it's fitting that our novels shouldn't have to either. Yeah.
Yes, that's right. That's right. Exactly. Exactly. And I think, again, just in that vein, if you are a particular genre on it, then you do have, even subconsciously, you have some certain, you have expectations, and that, so again, that can be good. If it does fit neatly into that, then that's kind of good. You're ready for that. But if it's not, then I think it can actually detract from the story. So I think you're right about that.
Mm-hmm, absolutely. Just about the main topic of the story, or one of the main themes you have going on. Of course, getting old and aging is somewhat of a universal experience, or at least something we all consider, whether all of us have the privilege of experiencing it. But I was wondering if you would get a bit into anything in particular in your life that led you to writing an entire book about it.
Yeah. Well, first of all, I agree with you. I think you used the word privileged, and I agree with that. I think that there is a privilege with aging and getting older. And I think our culture typically doesn't view it that way. They think of it as a detriment and something to avoid and be scared of. And the more I thought about it, the more I disagree with that. And in fact, I've actually written two books on it now, because I did write a nonfiction book about my own grandma and kind of her experience getting into her late 90s and spending time with her and reflecting on what being an older person meant for her and how I continue to use her as a model in my own life. And so I think I'm interested in that. And so then I wanted to kind of write about it in a fictional context, but still about these ideas and why is it that we're so scared of getting older and dying. And so I just find it, again, something that for me is personally interesting and something I continue to think about. And it's just sort of endlessly fascinating for me to think about these things.
Yeah, for sure. And you mentioned earlier about, you know, you want people to have different interpretations. And of course, with art, people are going to walk away with their own unique interpretations and thoughts and feelings, et cetera. But is there a particular perspective on this topic that you were aiming to portray or get people thinking about?
Just really that, what you said, the idea of thinking about it maybe a little bit differently, the ideas of aging and what it's like to be an older person, and particularly in the context of art. And I think what you said as well, you know, people will go to a gallery potentially looking at paintings or visual art, and it's sort of, I think, accepted that we will bring different interpretations to a painting. Some people might look at it and maybe not like it, or they'll see something that someone else doesn't see. And I love bringing that same idea to literature and books and novels. And I love reading books that I feel like I get to be part of as a reader, that it's not all given to me, that it's not just an author telling me what to think. And it feels like a intimate conversation then, because it feels like, okay, this is what I'm getting from this story, or this is what it's making me feel or think.
Absolutely. I really like how you described it as a conversation.
I mean, it's the same if you're sitting in a room with someone, or you're at a dinner party or something, and if you're talking with someone, let's say you get sat beside a stranger and you just start having a conversation. There's a difference between having a conversation and, you know, someone expressing themselves to telling you, oh, here's what I think about this or this, you know, you just zone out. It's not really, you're not engaged. It's, whereas if someone is asking you questions and it's listening to what you're thinking and feeling and your thoughts, I mean, that's what a conversation is. And I think in a way, a novel can be something similar to that between two people, the person who wrote it and the person who's reading it.
Yeah, that's really interesting. Especially, I know, I imagine as a writer, sometimes it feels like you're just throwing your thoughts into the void, but it's really awesome to think about it as a conversation and that people are interacting with what you've written.
No, exactly. That's why it's so nice to bump into people, or, you know, anytime I get to do any kind of promotional thing where there are people there and they've read it, or and talk to them after, it's always very nice to, because you're right, when you're writing, it's solitary and I'm never thinking about people reading it. I'm just thinking about the story. And then to get to that point, when someone gets to interact with it, it does feel in a way like now it's actually, the story is completed. You know, it's not really a story or a novel until someone reads it.
Reed also discussed his reaction to the news of being a GG Books finalist.
How did you receive the news? Was this something you were really anticipating and like waiting for that list to come out, or was it a bit of a surprise for you?
I mean, it was downright shocking, to be honest. I had no expectations. You know, as I said, it's kind of a strange book. It doesn't really fit into any kind of category. And I wasn't even really aware that it was happening, and received the email and just was very surprised. Of course, it's a very pleasant surprise. I'm really grateful that it was recognized in this way to be included with some other great novels writers that I admire. And if it brings more people to all of these novels, then I think that's a good thing. You know, there's so many good books out there that it's hard to sometimes get people to see the work. So it's another opportunity for that. So I'm happy for that.
The GG Book Awards winners were announced on November 8th, and we're sad to say that Reed's fiction novel, We Spread, did not win. However, Chrysalis by Anuja Varghese from Hamilton, Ontario, did. Congratulations to both authors. And this concludes this episode of Viewpoints. Many thanks to our team, journalists Caleb Nickerson, Christina Lurie, and Erica Butler, to our national coordinators, Maureen McEwen and Victoria Fenner. Viewpoints is brought to you by the Community Radio Fund of Canada. I'm Boris Chassaigne, your host and producer. Thanks for keeping us company. Remember that you can tune in to all our stories on canada-info.ca and also listen to past shows. Please stay tuned to what follows. Have a great week, and until the next, ciao. This episode was a rerun.
AGI. Listen to all our news online at canada-info.ca.
Radio McGill Montreal. Nicest every time. Bitter road of music. It's a ball. Bojabantan says so. World of people call. All the Radio McGill in Montreal can read on CKUT. Reggae music for you and me. No color barrier.
Cette émission de Point de vue est une reprise. Salut à tous et à toutes. Bienvenue à Point de vue. Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, après avoir pris la mer la semaine dernière, on pose les pieds à terre sur l'île d'Anticosti, rencontrer la directrice de la radio locale.
On n'est pas beaucoup, fait que c'est sûr qu'il faut crier fort des fois pour se faire entendre, puis c'est ce qui s'est passé à l'époque.
En Ontario, le journal Le Goût de vivre garde le cap depuis maintenant un demi-siècle.
C'est phénoménal. C'est parce qu'ils se voient dedans, ils se reconnaissent, ça fait partie de leur vie, de leurs expériences. Il faut juste être nous autres mêmes, puis continuer ce qu'on fait parce qu'ils sont attachés à leur journal comme nos âmes.
Une famille de musiciens acadiens se transmettent leur passion pour la musique depuis 6 générations. Ce sont les Leblanc et ils sont 5.
Une chose qui plaît beaucoup au public français, c'est quand on chante, puis beaucoup des chansons viennent justement de la France, puis ont été traversées comme en bateau, comme longtemps passé.
Les publics en France, je trouve que c'est nos meilleurs publics. Ils sont impressionnés par nos accents.
Notre écran radar fait feu de tout bois. Des chercheurs veulent atténuer les bruits sous-marins dans le fleuve Saint-Laurent. 35 femmes de l'Acadie se racontent dans Acadienne, la cuisine du monde à la cafétéria scolaire. Et l'hiver est sans pitié pour les sans-abri.
Écoutez, ça le fait depuis des années et des années. Là. On a 101 lits qui sont à pleine capacité à tous les soirs.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être avec nous. Les médias canadiens traversent des moments difficiles. Journaux, radios, télé, chaînes spécialisées, tous disent souffrir d'une importante baisse de revenus. Les revenus publicitaires que leur grugent les géants du numérique, notamment. Heureusement, plusieurs tiennent encore le fort. C'est le cas à Radio Anticosti, sur l'île qui porte le même nom, plantée au beau milieu du fleuve Saint-Laurent et qui vient de souffler ses 35 bougies, et peut-être grâce à son isolement. Une radio qui est née de la mobilisation de ces résidents, eux qui souhaitaient se faire entendre, avoir leur propre radio. Ces lettres d'appel sont CJBE-FM, la radio qui lançait ses premières émissions en 1988. Notre journaliste Raphaël Hensley-Vincent a pris le bateau pour aller à la rencontre d'Isabelle Plante, la directrice générale de cette station basée à Port-Meunier. Madame Plante, qui est à la barre de cette radio communautaire insulaire depuis 4 ans, elle nous raconte d'abord les débuts de la station, puis les projets qu'elle caresse.
Le début de la radio, quand ça a été créé, c'était un groupe de citoyens. Ça a vraiment été une demande citoyenne à l'époque d'avoir une radio, parce qu'on s'entend qu'ici, on capte pas, à part Radio-Canada, là, qui est sur le AM, on capte pas vraiment beaucoup de radios. Puis ce que j'ai su, c'est qu'il y a eu beaucoup de rassemblements de plusieurs, je pourrais dire quasiment partisans, où est-ce qu'eux faisaient des pancartes pour aller mobiliser des espaces, exemple l'aéroport, pour se faire entendre, pour avoir des subventions, pour avoir le droit de pouvoir construire une antenne, une tour, une antenne radio. Mais ça a vraiment été là, le fait de se faire entendre, parce que les petites régions, c'est un peu ça aussi qui arrive, c'est qu'on n'est pas beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il faut crier fort des fois pour se faire entendre, puis c'est ce qui s'est passé à l'époque.
Cette Lavalloise d'origine a eu un coup de cœur pour Anticosti qui l'a poussée à s'y installer en 2016. Elle occupe le poste de directrice de la radio locale depuis 2019. Récemment, Isabelle Plante a redécouvert les vieilles bandes audio de ses premières émissions et elle souhaite les numériser. Elle imagine aussi un projet de balado pour conserver les traces des débuts de la radio.
Les principaux acteurs, il y en a qui sont encore ici sur l'île. Puis je me dis toujours, ben écoute, on n'est pas éternel. Puis pendant que j'ai encore accès à cette mine d'informations-là et d'expériences surtout, je vais les emmener à pré-enregistrer puis à faire des entrevues pour aller aussi recréer tout ça, le début de la radio, comment ça s'est passé, comment ça se filait, ça se faisait-tu dans le salon de ma tante ou bien ça se faisait vraiment dans un local précis. T'sais, j'aimerais aller voir c'est quoi tout ça, puis aller plonger là-dedans, puis laisser aussi une trace, parce qu'après, ces gens-là, dans 10, 15, 20 ans, ben, ils seront plus de ce monde. Donc, je trouve ça intéressant de laisser la trace du début de la radio.
Malgré ses implications citoyennes des débuts, la directrice convient que le recrutement est actuellement un réel défi pour Radio Anticosti. Si le fonctionnement de la radio a longtemps été assuré par des locaux, elle n'a pas réussi à pourvoir le poste d'animation laissé vacant depuis août 2022. Pourtant, ce n'est pas faute de candidatures intéressantes ou de jeunes motivés à prendre la relève, déplore Isabelle Plante. Le manque aigu de logements à Port-Meunier l'empêche d'engager une personne provenant de l'extérieur de l'île, puisque l'organisme communautaire ne possède pas d'immobilisation pour la loger.
Ici, si on n'habite pas déjà sur place, présentement, il n'y a plus de possibilité de venir se loger présentement. C'est sûr qu'il y a toujours les gîtes. Donc, tout ce qui est finalement à long terme, il n'y a pas de bail ici à long terme. Il n'y a pas de logement en tant que tel. C'est des maisons, des semi-détachés. Faut vraiment qu'il y ait de la construction pour se permettre d'avoir un logement. Nous, la radio ne possède pas d'immobilisation à ce niveau-là. Habituellement, les pourvoiries, ça soit aussi la CEPAC, la municipalité, la coopérative qui est notre épicerie, possèdent des logements, possèdent des maisons, plutôt, qui sont transformées en logements pour les employés. Nous, la radio n'a pas eu besoin de faire ça parce que depuis des années, on fonctionnait, je dirais, à l'interne, donc avec des gens du village. Fait que je te dirais, c'est un beau petit défi. On avait trouvé une personne vraiment là, parfaite en tout genre qui voulait venir ici depuis au moins 5 ans, diplômée fraîchement d'animateur radio, un beau jeune là, qui voulait venir ici pendant des années, puis on n'a pas pu à cause qu'il n'y avait pas de logement.
Sans animateur sur place, CJBE doit se résoudre à engager à l'externe des animateurs et animatrices d'autres radios communautaires qui produisent à distance des émissions et du contenu local afin d'atteindre son temps d'antenne dédié au contenu local exigé par le CRTC, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. D'ici à ce qu'une personne soit engagée, Isabelle Plante s'affaire à la restructuration de la radio et à la révision des états financiers et des conditions de travail. Une des réflexions qui l'habite également profondément concerne l'implication des gens du village à la radio, afin d'en faire un lieu de rencontre et d'échange.
Parce que moi, mon but, c'est que je veux rouvrir la radio d'une façon plus, encore plus communautaire. Parce que là, on est un petit peu comme dans le bout d'un corridor, puis il n'y a jamais personne qui vient en réalité. Puis je trouve pas ça normal. Donc, comment être capable d'aller rechercher l'implication citoyenne pour pas rendre ça, mon Dieu, à radio, c'est stressant, c'est énervant. Non, tu sais, venez me parler de votre recette de sauce à spaghetti, venez parler de votre ménage de printemps dans vos trucs avec le bicarbonate de soude. Tu sais, je dis des exemples, mais j'aimerais ça être capable d'aller chercher un petit côté comme ça plus vivant de la radio.
C'était un reportage de Raphaël Hensley-Vincent.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, il y a des médias qui résistent encore aux assauts des siècles. C'est le cas du journal local Le Goût de vivre et dont les lecteurs tournent les pages depuis près de 50 ans. Issu d'un projet d'économie sociale, ce bimensuel francophone de La Fontaine en Ontario vient d'être récompensé par le réseau Point de presse, un organisme national qui chapeaute les journaux francophones en milieu minoritaire au Canada. C'est en fait l'ancien APF, l'Association de la presse francophone. Le goût de vivre qui a au fil des décennies et comme tant d'autres traversé une période très difficile, ce journal qui a pendant 6 ans survécu sans un seul salarié en poste, voici donc une partie de l'entretien réalisé par Hubert Héberge à Penetanguishene en Ontario avec Odette Bussière, présidente du conseil d'administration du journal Le Goût de vivre, qui relate les premières heures du journal. Tout a commencé sur un banc d'école.
Ben, ça s'est fait dans une classe de français à l'époque à l'école secondaire PSS qui était supposément bilingue.
Oui.
Donc, parce qu'il n'y avait pas d'école française à l'époque. Alors, les élèves de la classe de français de Sœur Priscilla Maurice, donc, ont manifesté le désir de partir un journal. Et je peux te dire que j'en ai vu souvent dans les écoles, là, des élèves qui disaient « OK, on part un journal. »
C'est rare.
Et ça durait deux semestres, à peu près. Mais ce que je pense que ce qui a été important dans leur décision, c'est que du moment qu'ils l'ont fait, ils ont inclus la communauté. Donc, ils faisaient leur journal, mais ils distribuaient à la communauté francophone. Alors, c'est devenu, à ce moment-là, un lien direct parce que de penser qu'après 51 ans, un journal qui a commencé dans une classe de français, dans une école bilingue, c'est, oui, c'est phénoménal. Comme...
En 2023, après 51 ans, qu'est-ce que le journal cherche à accomplir dans sa communauté? C'est quoi le but principal, ce qui vous motive?
Ben, en fait, je pense que ce qui est important, c'est qu'on reste vraiment ancré dans le but premier, qui est de parler des gens de la région, mm-hmm. de parler des bonnes nouvelles, des bons coups, qu'on soit réellement le reflet de la communauté franco-ontarienne du milieu. Et ça, je veux dire, tu rencontres des gens, là, ils te voient avec... Il te voit avec une pile de journaux, là, tu t'en vas livrer ça, puis une fois une madame elle me dit hey, moi, là, ils ont déjà publié, quand j'étais jeune, ils ont publié mon poème, puis là on parle d'il y a 30 ans, mais je l'ai encore, je l'ai découpé, puis je l'ai gardé. Alors, c'est ce qui fait que le journal est si important pour les gens, c'est parce qu'ils se voient dedans, ils se reconnaissent, ça fait partie de leur vie, de leurs expériences. Donc, je pense que faut pas aller chercher de midi à 14h là, des changements à faire. Faut juste être nous autres-mêmes puis continuer ce qu'on fait parce que c'est ça que les gens ils sont attachés à leur journal comme nos arbres.
Le goût de vivre qui, sans jeu de mots, a survécu à la pandémie, à la crise qui touche tous les médias, ceci alors que les journaux abandonnent le papier, que des milliers d'emplois sont perdus et que d'autres ferment boutique. Hubert a demandé à Mme Bussière ce qu'on pouvait souhaiter au journal Le goût de vivre pour 2024. De la publicité et des subventions, dit-elle.
Bonjour, ici Maxime Gauthier à Saint-Quentin. Vous écoutez Point de vue.
Du golfe du Saint-Laurent en passant par la région de la baie géorgienne, on rejoint maintenant les Maritimes à rencontrer des musiciens et musiciennes de la famille Leblanc. D'autant qu'on soulignait du 7 au 12 novembre dernier la 27e Franco-Fête à Dieppe en Acadie. Le prétexte idéal donc pour une rencontre avec les Leblanc, pour qui la musique est une affaire de famille depuis six générations. La famille Leblanc composée des parents Rebecca et Robin Leblanc et de leurs trois filles Charlotte, Rosalie et Mélodie. Adèle Gros-Perrin, postée à Halifax en Nouvelle-Écosse, les a rencontrés au retour d'une récente tournée en France.
Comment ça se transmet le goût de la musique?
Mais depuis six générations, je pense que c'est la première fois qu'il y a deux enseignants dans la maison. Mes grands-parents n'étaient pas des enseignants, mon arrière-grand-père non plus. Puis moi, de transmettre à mes enfants ou à d'autres, ça me fait plaisir. Moi, j'ai déjà mon plan de petite école de musique là, qui s'en vient. Parce que je veux continuer à transmettre. Puis notre camp de violon qu'on faisait, on a fait quatre ans de camp. On appelait ça le camp acadien. On avait des gens du Québec, des États-Unis qui venaient camper sur notre ferme. Puis on avait des petits ateliers. On profitait des musiciens qui étaient de passage. Ça aurait pu être de l'Irlande, des États-Unis, pour venir enseigner en deux concerts. Ça fait que ça, c'était une formule qu'on a mis de côté parce qu'on devait tourner. Bon, on n'était plus là au mois d'août. Puis il y a des chances qu'on ne soit pas là encore jusqu'à ce qu'on décide de recommencer parce que les enfants auront chacun pris leur envolée.
C'est vrai que les filles, peut-être une fois qu'elles auront grandi, est-ce que vous pourrez continuer en faisant les études à l'université? Peut-être pas.
C'est sûr, ça va être compliqué, mais si c'est si ça veut être un projet carrière futur, on ne sait jamais.
Et en même temps, on arrive à pratiquer un peu ce qu'on appelle à distance, là, parce qu'il faut le dire, cette année, Charlotte, elle a été invitée à l'Académie de soccer Nouveau-Brunswick. Donc, elle est ici, à Dieppe, elle va à l'école Mathieu-Martin, puis nous, on poursuit à Bathurst. Alors, on se rencontre sur Teams deux fois par semaine pour faire les pratiques.
Okay.
Donc, un départ de la maison, ça veut pas dire la fin du groupe ou de la musique non plus.
Alors, justement aussi, c'est comment de travailler en famille? Est-ce que des fois, il y a des tensions? Est-ce que... Voilà, quoi. Comment ça se passe?
Définitivement.
C'est on inévitable, peut
pas,
ouais.
C'est pas parce qu'on joue de la musique qu'on n'est pas une famille normale. Puis, comme enseignant, t'aimerais pouvoir enseigner et pas faire tant de gestion. Nous, on veut s'amuser à faire de la musique. Puis oui, il y a une forme de gestion, mais je pense que comme pédagogue, on s'est dit le soir, ça ne marchait pas très bien au début. On était fatigués. C'est pour ça que le matin, on se lève. Moi, je ferai mon café, je suis de bonne humeur. Les enfants arrivent, on fait une demi-heure. Il faut que ça se termine parce qu'il faut que j'aille travailler. Tandis que le soir, ça peut s'éterniser. Puis au départ, on a vécu des soirées comme ça, tu sais. Parce que non, on ne pratique pas assez bien. On ajoute une heure de plus, puis là, ça ne va pas si bien. Mm. Ça fait que ça, on a réglé des petites choses avec le temps. On a trouvé une formule qui fonctionne.
Wow, c'est beaucoup d'engagement. Et vous avez commencé à quel âge, les filles?
Ben, depuis qu'on est jeune, on fait de la claquette. Je pense qu'on a commencé à avoir la claquette. Mélodie avait 3 ans. Moi, j'en avais 6, puis Rosalie à côté de moi en avait 5. Fait que ça fait longtemps.
Alors, on va un petit peu parler aussi de votre album « Perdrais-je mon temps ». Est-ce que vous pouvez le présenter, expliquer qu'est-ce qu'il représente, comment vous l'avez fait?
Ben, c'est ça, c'est notre deuxième album de famille. On choisit tout le temps une phrase d'une chanson ancienne, une chanson acadienne. Le premier album, c'était « Trois jolies demoiselles », une chanson de « Pré d'en haut » de Memron Cook, qui était chantée par une amie de la famille, Antoinette Boudreau. Puis cette fois-ci, on a puisé dans le livre des chansons « Chants d'Acadie » du père Anselme Chasson, chanson intitulée « Saunierville », qui est la chanson qu'on vient juste de mettre en vidéoclip. Mais le titre, par contre, là, je me mélange un peu, le titre, lui, vient d'une autre chanson de la péninsule acadienne où on dit « Perdrais-je mon temps ». Perdrais-je mon temps, c'est une chanson d'amour. Hein? Est-ce que je perds mes peines? Est-ce que je perds mes amours? Est-ce que je perds mon temps? Donc, on l'a utilisé, nous, dans le sens aussi de un sens un peu comme culturel. Est-ce que faire de la musique traditionnelle, parce que moi, malgré que ma famille vient d'un milieu, un milieu traditionnel, moi, j'étais batteur quand j'étais jeune. Je jouais juste du rock. Mm. C'est ça que j'aimais faire. Pour moi, aller en France un an étudier, ça a été une genre de déclic quand les gens m'ont dit ben tu viens de Paris ici puis tu joues pas de violon. Puis ça m'a fait un peu comme, tu sais, je les avais déçus. Fait que je suis revenu, puis c'est là que j'ai commencé à jouer du violon, puis me promener de village en village, aller à Chéticamp, puis enregistrer les gens, de voir mes filles faire de la musique traditionnelle. Je pense que la question se pose, est-ce qu'on perd notre temps à faire de la musique traditionnelle? Il y en avait beaucoup avant, mais qui joue de la musique traditionnelle aujourd'hui qui te leur âge? Et donc, cette question-là, c'est un peu une question qu'on se pose ensemble, à se dire, est-ce que c'est vraiment un choix? Faut-tu faire uniquement un style? Ou est-ce qu'on peut faire une musique qu'on aime et ce qui fait partie d'une musique du monde, une musique? Puis les filles, je pense qu'un prochain album, ils aimeraient ça que ça soit plus engagé, mm-hmm. avoir des drums. Puis moi, je suis batteur. C'était mon premier instrument. Ça ferait plaisir d'évoluer puis pas sentir qu'on perd notre temps.
D'accord. Mm-hmm. Rebecca?
C'est aussi la perspective des ados, là. Faut le dire, là. Est-ce que eux-mêmes sentent qu'ils perdent leur temps là, à jouer de la musique, peu importe le style et tout ça. Fait que moi, je trouvais qu'il y avait une belle connotation dans ce sens-là aussi.
On s'est aperçu que le public aime le chant. Ça fait qu'on en a mis 6 sur les 12. Mm-hmm. Puis les 12, c'est des pièces vraiment là, à saveur celtique. Acadienne.
Oh,
parce
sympa.
Qu'il y a un style par ici. Hein? C'est pas le style de l'Irlande ou de l'Écosse. C'est vraiment un style particulier de par ici.
Okay. Justement, je voulais vous demander, à ce qui paraît, vous avez fait pas mal de tours en France, justement. Comment ça s'est passé? Parce que justement, c'est très acadien, le style, c'est un peu particulier. Est-ce que ça plaît au public français?
Une chose qui plaît beaucoup au public français, c'est quand on chante. Puis beaucoup des chansons viennent justement de la France, puis ont été traversées comme en bateau, comme longtemps passé par chez nous, fait que c'est une chose qui est beaucoup appréciée là-bas, oui.
Les publics en France, je trouve que c'est nos meilleurs publics. Ils sont impressionnés par nos accents. Les accents, quand on parle, c'est surtout... moi, mon défi, c'est quand je parle ou je présente, j'essaie de présenter, puis là, je parle vite, là, puis là, la foule me regarde comme, qu'est-ce que tu viens de dire? Ben, ils n'ont rien compris, puis là, je me répète. Mais, ouais, je pense que c'est comme les accents, puis... C'est le fun. C'est des belles foules.
Mais quand ma fille dit meilleur public, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas encore joué pour du monde qui fête ici.
OK.
Puis je pense que quand ils auront la chance de faire ça, le meilleur public, là, ça va devenir pas mal
oui, ce
relatif.
Ce que tu veux
là.
Dire, c'est que souvent, on est dans le créneau jeunesse, là, les heures comme avant le dodo. Là.
Merci à toute la famille Leblanc pour cette entrevue. C'était Adèle Porigiel, Halifax.
Cette émission de Point de vue est une reprise.
On reste dans la même province pour vous parler de l'écrivaine Stella D'Entremont, originaire de Pubnico-Ouest, en Nouvelle-Écosse. Madame D'Entremont, qui vient de lancer son tout nouveau livre, intitulé, un livre bilingue d'ailleurs, intitulé Acadienne. L'auteur nous présente 36 femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Louisiane même. Acadienne plonge en fait dans le récit de vie de ces femmes et par le fait même de leur région, en nous présentant d'abord les visages et les mains de chacune d'entre elles. Danielle Aucoin.
J'ai commencé ce projet ici en 2020. J'avais reçu une subvention du Conseil des arts Canada pour rencontrer 25 femmes de la région des Maritimes pour faire prendre leurs photos de leur visage et de leurs mains. Parce que moi, je disais que si tu regardes sur les visages et les mains d'une personne, tu peux raconter leurs histoires. Et en plus, j'allais prendre puis attacher un bio avec ces images. Puis ce projet ici a commencé, ça l'a vraiment bien. Je rencontrais des gens, des femmes de l'île de Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, puis Nouveau-Brunswick. Puis je m'apercevais que leurs histoires étaient très intéressantes. Ça devenait un petit peu personnel parce que chacune racontait un petit morceau de la vie de ma mère, parce que moi, j'avais déjà perdu ma mère quand j'avais 34 ans. J'ai décidé que c'était important de mettre toute cette information ici comme dans un livre, parce que je pense que c'était les informations intéressantes et importantes. Alors, j'ai demandé une deuxième subvention pour faire cette deuxième partie-là, de faire ce livre. Et en plus, ajouter 10 femmes de la Louisiane, parce que je voulais voir s'il y avait la similarité entre les deux. Puis le livre est finalement fini.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Comment atténuer l'impact sonore qu'ont les navires sur les espèces marines du fleuve Saint-Laurent? Eh bien, des experts en acoustique et en innovation maritime du Centre de recherche appliquée affilié à l'Institut maritime du Québec à Rimouski travaillent à réduire l'empreinte acoustique des navires touristiques et marchands qui circulent sur le fleuve. Des expériences acoustiques ont été menées notamment dans la région de Tadoussac, sur la côte nord. Maxime Jaudoin aux Escoumins en parle avec Jean-Christophe Gauthier-Marquis, chef d'équipe responsable de l'acoustique et des vibrations d'innovation maritime.
Dans les dernières, je dirais, deux décennies, il y a eu une sensibilisation importante là, face à cette problématique du bruit sous-marin. En fait, la communauté scientifique a démontré qu'il y avait beaucoup d'effets néfastes sur les différentes espèces, notamment des espèces en péril, comme la baleine bleue, par exemple, ou le beluga. Et à partir de là, ben, la question se pose, c'est comment on fait pour réduire l'empreinte sonore des navires, puis quelle solution on peut adopter concrètement. Qu'est-ce qu'on fait? On met littéralement, c'est des microphones sous-marins, ce qu'on appelle des hydrophones, et on écoute le bruit réel des navires. C'est quoi vraiment, là, dans le Saint-Laurent en ce moment, dans le coin de Tadoussac, dans le coin en face de Rimouski, qu'est-ce qu'il y a comme bruit? Puis en fait, on regarde, bon, ben, c'est quoi l'état de la situation, puis qu'est-ce qui est le plus nuisible pour les espèces? À partir de là, on a identifié deux sources principales de bruit, c'est-à-dire la machinerie à bord, les moteurs, les génératrices, les pompes, là, tout. Si vous avez déjà été dans une salle des machines, vous vous rappelez sûrement là, que c'était extrêmement bruyant. Mais la source principale, c'est l'hélice. L'hélice en arrière, elle fait beaucoup de bruit. Si un navire réduit sa vitesse considérablement, ça diminue le bruit. Mais on s'entend que ça a des impacts économiques importants et c'est difficile sur un armateur qui, lui, doit offrir un certain service.
Parmi les solutions envisagées, l'Institut travaille aussi à développer des résonateurs capables d'absorber certains des sons sous-marins émis par les moteurs et les hélices des navires. Une peinture aussi peut être appliquée sur la coque. On est aussi en train de cartographier la pollution sonore le long du fleuve Saint-Laurent grâce au déploiement d'une dizaine de stations d'écoute. Près de 7000 navires transitent chaque année sur le fleuve Saint-Laurent. À suivre. Le monde a bien des visages, mais aussi ses goûts et ses couleurs, et c'est bien l'expérience dont profitent depuis peu les élèves et les professeurs du centre scolaire Samuel de Champlain à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, eux qui, établis à la cafétéria du centre scolaire, peuvent s'ouvrir à la cuisine du monde. Le restaurateur Alex Aram a été embauché pour mener à bien cette mission culinaire, si la cafétéria s'est gardée quand même de retirer les hamburgers, lasagnes et pizzas de son menu, elle va quand même proposer des salades grecques, shawarma et saucisses soudjou. Alex Aram, un restaurateur bien connu des habitants de Saint-Jean, puisqu'il est propriétaire d'un restaurant de cuisine libanaise, est à la barre donc de cette transformation. Il est ici au micro de Sébastien Caron.
C'est vraiment depuis que j'étais en secondaire à Montréal, toujours je regarde le cafétéria et je voulais que ça soit différent. T'sais, c'est quelque chose que j'ai des idées, des nouvelles idées pour le faire, c'est ça. Les options, il y a beaucoup. T'sais, et c'est vraiment multiculturel. Là. Quand on parle de... C'est pas vraiment cuisine libanaise comme la Thomas. C'est, par exemple, aujourd'hui, on avait grec. Okay? On avait la salade grecque avec le spanakopita au riz, avec la sauce au yogourt. Comme les assiettes à chaque jour, c'est vraiment de la viande qui... Il y a rien de congelé. Et beaucoup d'options.
Est-ce que le fait d'avoir une population qui soit très diverse dans le centre scolaire, on sait qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour le coup. Est-ce que c'était plutôt facilitateur pour toi?
Absolument. Absolument. Parce qu'il y a déjà des gens qui le savent, qui savent c'est quoi. Et si quelqu'un qui le sait, il va le dire à ses amis, au professeur, à tout le monde. Il va l'expliquer et ça nous sauve de temps de l'expliquer à tout le monde. Tu sais. Et en plus, on va garder des assiettes traditionnelles comme les hamburgers. Ça va être quelque chose qu'on va avoir. Les pizzas sont là à chaque jour, lasagne, spaghetti. Et à part de ça, l'assiette de jour. L'assiette de jour, ça va être une surprise. T'sais? Demain, ça va être shawarma avec du riz et légumes et la sauce.
OK.
Ouais. Parce qu'on est en train d'essayer de faire de plus en plus, comme on a fait le butter chicken indien. Puis cette semaine ou la semaine prochaine, je veux faire quelque chose chinois, comme des teriyaki avec du riz blanc et la sauce teriyaki au poulet et légumes. Okay. C'est ça. Donc, ça va être vraiment beaucoup de diversité.
Le repas moyen chez toi, donc à la CAF, là, il coûte combien?
7 $. Bien sûr, entre secondaire et primaire, les prix,
c'est
ça varie.
L'évolution,
un petit peu comme au primaire, les portions sont un peu plus petites.
Bien sûr.
Mais ça vient avec un breuvage et avec un dessert.
C'est quoi les premiers retours?
C'est excellent. On est vraiment content de ce qu'on entend, des professeurs, des élèves qui reviennent. Les élèves sont vraiment contents. Tout le monde, jusqu'à date. Merci.
Une entrevue réalisée dans le cadre du programme Initiative Journalisme Local.
Et pour conclure, on a une pensée pour ceux et celles sans domicile fixe et qui doivent maintenant affronter les rigueurs de la saison froide. Pendant que l'on travaille à Fredericton, par exemple, à bien vêtir certains des plus démunis de notre société, d'autres à Québecville, à 2h30 de Montréal, se démènent pour leur trouver un lit, si ce n'est que pour passer la nuit. C'est le cas au refuge L'Aube-Rivière de Québec, qui sait malheureusement d'ores et déjà qu'il ne sera pas en mesure de loger tous les sans-abri qui vont frapper à sa porte dans les jours et les mois qui viennent. Notre nouveau collaborateur Jimmy Lajoie-Boucher en parle avec le coordonnateur clinique Frédéric Lapointe.
La réalité fait qu'il y a du monde qui sont à la rue, qui sont dehors. Dans les dernières années, on avait ouvert un petit café de nuit. Par contre, on n'est plus capable de l'ouvrir. L'année dernière, ça s'est fait en collaboration avec le CIUS, YMCA. Écoutez, ça le fait depuis des années et des années. Là. On a 101 lits qui sont à pleine capacité à tous les soirs. On a un service de 15 lits de dépannage qui est vraiment ouvert 24 heures sur 24, où ce que les gens peuvent venir, ça s'appelle la halte. Dans le fond, c'est un moment de répit. Les gens viennent dormir un 8 heures. Malheureusement, on doit les réveiller parce que quelqu'un d'autre qui a un lit. C'est occupé à 300%. Puis une très, très, très grosse hausse depuis la pandémie. Beaucoup de monde des différentes régions. Je l'entendais encore aujourd'hui. Des gens qui venaient, une personne qui venait de Chicoutimi. Qui s'est emmené à Québec, faute de place à Chicoutimi, arrive à Québec et il n'y a pas de place. Il y a beaucoup, beaucoup de monde comme ça qui viennent. Puis on sait qu'avec la situation qui se passe au niveau du prix élevé des logements, là, on voit vraiment une différence. Cet été, après, au niveau de l'hébergement homme, il y avait près de plus de 75% des gens qu'on n'avait jamais vus à l'Aube-Rivière, qui n'avaient jamais obtenu de service, qui se sont ramassés à la rue, faute de pouvoir payer leur logement.
Voilà, c'est tout pour nous. On vous rappelle que tous ces bouts d'histoire peuvent être entendus dans leur entièreté sur canada-info.ca. Ceux-là et des dizaines d'autres produits par nos journalistes d'Est en Ouest au pays. On remercie ceux d'aujourd'hui, Adèle Gros-Perrin, Sébastien Caron, Raphaël Hensley-Vincent, Hubert Théberge, Daniel Aucoin, Maxime Jaudoin et notre nouvelle recrue Jimmy Lajoie-Boucher. Bienvenue parmi nous, coordonnateur national Stéphane Bénard, Boris Chassagne au micro et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire. Merci de nous tenir compagnie. Si on fait de la radio, c'est bien pour être avec vous et parler de vous. Restez à l'écoute de ceux et celles qui nous suivent. À la semaine prochaine. Ciao. Cette émission de Point de vue est une reprise.
Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Searching the call on an ode to prayer. But trouble and mine.